5 août 1944. Ma chère maman, j'ai bien reçu ta lettre et ton mandat de 50 francs, mais je ne veux plus que tu te prives d'argent pour moi. D'ailleurs, ici, il n'y a plus rien à acheter. Et puis, ce n'est pas de l'argent qu'il me faudrait, mais du pain. Et ce n'est pas à toi à m'en envoyer, mais à mes amis et autres membres de notre famille. Et les colis de Paris et ici ne marchent plus. Et quant au sucre et au chocolat, je crois qu'il faudrait que les anges du ciel m'en apportent pour que j'en mange encore sur cette terre où je n'en ai plus vu depuis des mois. Les hommes ne savent pas ce qu'est le besoin. Et ils n'ont jamais su comprendre à quel point un homme comme moi pouvait avoir besoin de tout parce qu'il a manqué de tout pendant des années. J'ai passé 3 ans, de 1937 à 1940, dans les asiles français, à Paris et à Rouen, sans voir un dessert, ni manger un gâteau ou un fruit, ni boire une tasse de café. C'est que la charité et la pitié ne sont plus de ce monde, et l'amour non plus. Et pourtant tout est basé sur l'amour. Mais les hommes n'ont jamais su ce que c'était. J'étais un homme qui voulait être aimé avec mon cœur et pour lui. Et toutes les femmes m'ont tourné le dos parce qu'elles ne comprennent que l'amour sensuel. Et dès qu'on essaie de leur donner de l'âme, elles n'en veulent pas et vous prennent pour un niais et un idiot. Platon a essayé de donner une idée sublime de l'amour dans ses livres. Sa doctrine, qui est merveilleuse, a servi à composer dans notre langue l'expression fameuse d'amour platonique, qui veut dire pour les Français « amour qui n'existe pas ». Saint François d'Assise en a fondé une autre, celle d'amour séraphique. Mais elle ne vaut que dans les cloîtres, parce que dans la vie je ne l'y ai jamais vue. L'amour, c'est le don entier de soi à un être. Mais notre soi n'est pas notre corps, mais notre âme et notre cœur. Et j'ai toujours reconnu que quand les sens et le corps s'en mêlaient, l'âme et le cœur se retiraient et que l'amour lui-même était perdu. Et aimer, c'est aimer d'un amour éternel et non de passade et de passage. Ou alors ce n'est pas la peine d'aimer. Et ce n'est pas de l'amour mais de la bestialité. Si quelqu'un m'avait aimé vraiment sur cette terre, d'amour, je n'en serais pas dans la situation où je suis, ayant faim et me trouvant dans un affreux besoin de l'essentiel. Mais il m'aurait apporté tout ce qu'il me faut et qui me manque pour vivre et retrouver mes forces, parce qu'il aurait reconnu que je ne suis pas un inutile, mais que mes capacités sont au service de tous et peuvent le redresser lui-même quand je les retrouverai, et que je mérite de ne pas disparaître sans rien. Ceci est dit pour mes amis. Quant à toi, sois tranquille. Nous nous reverrons bientôt. À toi.
La rupture du lien affectif, j'ai eu l'occasion de voir ça, c'est vraiment le signe de la grande démence, enfin, ou de l'isolement total. Artaud n'était pas un isolé. Artaud était un vivant extraordinaire. Il m'a dit aussi qu'il aurait aimé vivre dans la Grèce archaïque, parce que là, on savait danser. On dansait la vie. Ce qui est nietzschéen, au grand sens du mot, et pas du tout, comme on dit, enfin, désespéré.
Jacques Brenner.
Il faut préciser que les jeunes gens donc comme moi autour d'Artaud, nous étions dans une attitude extrêmement respectueuse. Aujourd'hui, on me dit « Vous avez été un ami d'Antonin Artaud », mais c'était M. Artaud. Il y avait des distances auxquelles, d'ailleurs, il tenait beaucoup. Il faut dire que dans le journal de Prevel, on se rend compte que le fait d'avoir été maltraité dans les asiles faisait également qu'il tenait maintenant à cette distance.
Cette appellation de monsieur.
Mais cela tenait aussi au sentiment de sa particularité, dirais-je. C'était quelqu'un qui ne se commettait pas, monsieur Artaud. Il gardait d'ailleurs quelque chose du dandy dans ce côté archange foudroyé qu'il avait. Et alors, quand il arrivait qu'il donne des démonstrations, si je puis dire, qu'il fasse une lecture, par exemple. C'était quelque chose d'impressionnant et quelquefois de terrifiant, parce que s'il n'avait rien dans la main qu'une canne, c'était des coups de canne, mais quand on allait à Ivry, c'était des coups de marteau sur un billot. Et on était là, effectivement, comme une cérémonie sacrée. Et c'était vraiment le haut mal, dirais-je, au sens sacré du mot.
On ne peut pas encore une fois s'imaginer, parce qu'il fallait voir ce dandy, mais quel dandy, perdu dans un costume trop grand qui provenait de Pierre Lhomme, je crois. Enfin, c'était quelque chose d'extraordinaire. Quand vous pensez que vous pouviez déjeuner avec Artaud au Vieux Paris, par exemple, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, mais Artaud ne serait pas reçu dans un établissement public plus de 30 secondes. Et ce respect que nous avions pour lui, il l'imposait au garçon de café du Flore, ou à la serveuse du Vieux Paris, par exemple.
C'est une chose très remarquable, ça. On se ferait, je crois, une image tout à fait fausse de lui si on ne soulignait en même temps combien, justement, les gens de Montparnasse, d'abord, de Saint-Germain-des-Prés, les gens qui l'entouraient, avec lesquels il avait affaire, parce qu'il leur donnait ses chaussures à réparer ou son linge à laver. Combien ces gens, au fond, ne le considérait absolument pas, ni comme ridicule, parce qu'il pouvait, il aurait pu l'être parfois, étant donné les simagrées qu'il faisait dans la rue, ni comme scandaleux, ni comme dangereux.
Ni comme fou.
Ni comme fou. J'ai vu ça vraiment constamment. Le patron d'hôtel dont je parlais tout à l'heure, qui avait pourtant beaucoup à souffrir de la présence continuelle d'Antonin Artaud chez nous, puisqu'il plantait son couteau dans ma table par théâtre, par jeu, mais au sens vraiment le plus profond du mot. Ce n'est pas du tout qu'il ait jamais menacé quelqu'un. Mais justement, l'extraordinaire, les gens le savaient. Les gens le sentaient. Je l'ai vu dans le Midi, dans une petite ville du Midi qui à ce moment-là n'était pas du tout envahie par le tourisme, Sainte-Maxime, où il n'y avait personne, un petit village encore. Et où Antonin Artaud se promenait tout de même avec un couteau ouvert, un couteau à cran d'arrêt, dans les rues. Et il y avait des enfants, il y avait des passants, il y avait des gens qui allaient venir, les patrons de l'hôtel. Un jeune couple qui, évidemment, n'avait jamais rien lu, mais ils avaient eu l'idée d'aller se renseigner auprès du médecin du pays, qui lui était abonné au Cahier du Sud. Et qui leur a dit, non, surtout ne lui dites rien, c'est Antonin Artaud, c'est un très grand poète, alors vous comprenez, il est un peu bizarre, mais c'est un grand poète. Et effectivement, ils ont laissé Antonin Artaud renverser son encrier toutes les nuits sur les murs. C'était une petite chambre toute fraîche, repeinte, très très coquette. Bon, un beau jour tout de même, ces jeunes gens sont venus me trouver et m'ont dit, écoutez, Antonin Artaud est un monsieur si impressionnant, vous comprenez, ils ne nous ont pas lui dire, et puis nous savons, c'est un grand poète, le docteur nous l'a dit. Alors, vous ne voudrez vraiment pas faire d'ennui, mais ce n'est pas possible. On vient de refaire l'hôtel à neuf et toute sa chambre est maculée d'encre. Absolument partout, les draps sont déchirés. Certainement. Alors, j'ai écrit à Dubuffet pour obtenir un petit peu d'argent pour dédommager effectivement les patrons de l'hôtel qui avaient été si gentils. Et dans les rues, à Paris ou n'importe où, à Montparnasse par exemple, à l'époque où Antonin Artaud avait sa canne à laquelle personne ne devait toucher. Et un jour, un garçon qui était nouveau ou qui était distrait au dôme déplace la canne d'Antonin Artaud pour mettre le par-dessus de quelqu'un. Et Antonin Artaud se dresse à ce moment-là comme si on l'avait vraiment piqué de mille vipères et commence à lui tenir des propos. Vous voyez, enfin, monsieur, on ne touche pas à ma canne, c'était la canne de Saint-Patrick. Eh bien, les autres garçons de café qui connaissaient très bien Antonin Artaud sont venus et ont dit, oh, mais non, mon vieux, on ne touche pas à la canne de monsieur Artaud. C'est tout.
Vous nous parlez bien vraiment d'un autre monde.
Et oui, et Antonin Artaud avait, il faut bien dire, tout de même des façons d'être qui auraient pu provoquer de la gêne ou du scandale n'importe où ailleurs qu'à Montparnasse. Par exemple, un jour, on se promenait sur le boulevard Montparnasse, on marchait beaucoup. Antonin Artaud marchait, vous savez, il aurait pu marcher pendant des heures, il marchait si vite que je n'ai jamais vu personne pouvoir le suivre. Même quand il était très malade, même après sa sortie de Rodez, on ne pouvait pas marcher du même pas que lui, il courait. Et alors, courant comme ça, moi, trottinant derrière, je le vois aborder une dame, une ménagère, une dame qui faisait ses courses, enfin, elle avait un filet de provisions à la main, et lui dit, madame, vous êtes verte. Et la dame s'est retournée, elle l'a regardée évidemment, avec un peu d'étonnement, mais elle a passé son chemin, et puis il n'y a rien de nuit. Un autre jour, par exemple, il me dit, ma chère enfant, j'ai décidé de mendier, parce que, d'une part, je n'ai pas d'argent, et d'autre part, il faut que je récupère ce que le monde me doit. C'était l'époque où aussi il refusait de signer ses livres et où il avait décidé qu'il ne faisait plus paraître ses livres que de façon anonyme, ce qui avait incité Paulhan à lui répondre, j'ai vu la lettre, mais mon cher Antonin Artaud, quel sens ça a ? De toute manière, ce que vous écrivez, tout Paris saura le lendemain que c'est de vous, vous ne pouvez pas vous cacher. Alors à l'époque où il voulait se cacher, il voulait aussi mendier. Et un jour il m'a emmené mendier. Sur le boulevard Montparnasse, toujours, avec sa canne qu'il avait et avec laquelle il devait toujours toucher les écorces des arbres, ce qui l'obligeait à faire des zigzags sans cesse sur le trottoir. Tout en faisant ces zigzags, il a abordé un monsieur fort bien mis, avec un chapeau, un pardessus, et lui a dit « Monsieur, donnez-moi 5 francs ». Et le monsieur naturellement recule, voyant ce mendiant qui n'était pas un mendiant et qui tout de même avait l'air comme ça d'une espèce de prophète sorti d'on ne sait où. Il était très beau encore à l'époque, c'était d'une beauté absolument foudroyante. C'était vraiment une apparition qu'on ne pouvait pas ne pas remarquer. Et donc cette espèce d'apparition demande 5 francs. Le monsieur recule, un peu étonné, il dit « Mais pourquoi ?» Déjà, une bizarre question, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ? Et Antonin Artaud lui a dit « Monsieur, le monde entier m'a fait beaucoup de mal. Vous, vous faites partie du monde entier. Par conséquent, vous m'avez fait aussi beaucoup de mal. Et je vous demande 5 francs. C'est vraiment peu pour réparer. » Et le monsieur, il m'a donné.
Eh bien, je me souviens d'une autre image d'Antonin Artaud qui m'a bouleversé. C'était l'hiver qui a suivi son retour de Rodez. Il faisait particulièrement froid. Il faut savoir aussi dans ce monde que nous évoquons qu'il y avait les fermetures du premier jour de la semaine qui étaient à ce moment-là très strictes. Les cafés étaient fermés, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Et les pharmacies.
Oui. Et je me souviens de ce spectacle-ci. Les deux magots, il n'y avait pas une terrasse couverte comme maintenant. Il y avait des chaises et des tables qui étaient repoussées contre le mur et qui étaient maintenues avec des chaînes. Il faisait glacial. Artaud avait réussi à libérer un bout de table et un tiers de chaise, enfin, il était assis. Les gens faisaient un détour, pas du tout par crainte, mais encore une fois par ce phénomène de respect. Et il gelait à Pierre Fendre. Artaud écrivait avec la rage habituelle, enfin déchirant pratiquement le papier, le zébrant, et il transpirait des gouttes énormes dans ce gel, avec ces gens autour qui presque passaient sans faire de bruit pour ne pas le déranger.
Pierre Auster.
Henri Thomas, vous avez été le témoin de la dernière période de la vie d'Artaud et vous êtes vous-même né en 1912. Est-ce que vous entendiez parler d'Artaud, soit directement, soit indirectement, en 1936, au moment où il préparait son voyage au Mexique ?
En 1936, j'ignorais complètement d'Artaud.
Est-ce que vous faisiez partie du
milieu ? Je ne faisais partie d'aucun milieu.
D'aucun milieu.
Je faisais partie des services militaires. J'ai lu des choses d'Artaud à partir de 1940 et l'occasion en étant que je rangeais la bibliothèque d'André Gide, où j'ai eu la surprise de trouver des livres avec des dédicaces foudroyantes, d'ailleurs, à M. André Gide à travers le givre de l'air, et à M. André Gide et que la peste l'étouffe. C'était le théâtre de la peste qui était dédié ainsi. Et j'ai lu cela et j'ai été tout de suite captivé. Et j'ai demandé à Paulhan, mais qui est cet Antonin Artaud ? Il m'a dit, oh, je crois qu'il est mort ou qu'il est dans un asile. Il savait très bien. La preuve, c'est qu'il lui envoyait des paquets. Mais il commençait toujours comme ça, Paulhan. Finalement, j'ai écrit Artaud, et puis je suis allé le voir.
Vous aviez l'intention d'écrire un article ?
Oui, j'ai écrit quelque chose qui s'appelait Antonin Artaud, le théâtre mort et vivant. Ça a apparu dans l'heure nouvelle du regretté Arthur Adamov.
Quel est votre rapport aujourd'hui avec le Artaud qui a précédé celui que vous avez connu ? Comment considérez-vous l'ensemble de son œuvre ?
L'œuvre d'Artaud est d'un seul tenant, elle a une unité extraordinaire. Dans les lettres à Jacques Rivière, on trouve déjà presque tout Artaud.
C'est-à-dire l'impossibilité de penser, de s'attacher à un point précis.
En même temps, une faculté d'expression infaillible. Ce qu'il n'y a pas là, c'est la vision. Par exemple, un livre qui m'avait beaucoup frappé, c'était « L'art et la mort ». Il y a une longue prose sur Paolo Uccello, qui est merveilleuse.
Quand tu peignais tes deux amis et toi-même dans une toile bien appliquée, tu laissas sur la toile comme l'ombre d'un étrange coton, en quoi je discerne tes regrets et ta peine, Paolo Uccello, mal illuminé. Les rides, Paolo Uccello, sont des lacets, mais les cheveux sont des langues. Dans un de tes tableaux, Paolo Uccello, j'ai vu la lumière d'une langue dans l'ombre phosphoreuse des dents. C'est par la langue que tu rejoins l'expression vivante dans les toiles inanimées. Et c'est par là que je vis, Uccello, tout emmailloté dans ta barbe, que tu m'avais à l'avance compris et défini. Bienheureux sois-tu, toi qui as eu la préoccupation rocheuse et terrienne de la profondeur. Tu vécus dans cette idée comme dans un poison animé. Et dans les cercles de cette idée, tu tournes éternellement, et je te pourchasse à tâtons, avec comme fil la lumière de cette langue qui m'appelle du fond d'une bouche miraculée. La préoccupation terrienne et rocheuse de la profondeur, moi qui manque de terre à tous les degrés, présumais-tu vraiment ma descente dans ce bas monde avec la bouche ouverte et l'esprit perpétuellement étonné? Présumais-tu ces cris dans tous les sens du monde et de la langue comme un fil éperdument dévidé? La longue patience des rides est ce qui te sauva d'une mort prématurée. Car je le sais, tu étais né avec l'esprit aussi creux que moi-même, mais cet esprit, tu pus le fixer sur moins de choses encore que la trace et la naissance d'un fil. Avec la distance d'un poil, tu te balances sur un abîme redoutable et dont tu es cependant à jamais séparé. Mais je bénis aussi Uccello, petit garçon, petit oiseau, petite lumière déchirée. Je bénis ton silence si bien planté. À part ces lignes que tu pousses de la tête comme une frondaison de messages, il ne reste de toi que le silence et le secret de ta robe fermée. Deux ou trois signes dans l'air. Quel est l'homme qui prétend vivre plus que ces trois signes, et auquel, le long des heures qui le couvrent, songerait-on à demander plus que le silence qui les précède ou qui les suit? Je sens toutes les pierres du monde et le phosphore de l'étendue que mon passage entraîne faire leur chemin à travers moi. Ils forment les mots d'une syllabe noire dans les packages de mon cerveau. Toi, Uccello, tu apprends à n'être qu'une ligne et l'étage élevé d'un secret.
Et puis le Pesner, qui est plus visionnaire évidemment, les lettres à Jacques Rivière sont volontairement dépouillées. Elles sont écrites vraiment dans une prose presque voltairienne.
Et ce qui est très extraordinaire justement dès les lettres à Jacques Rivière, c'est la lucidité d'Artaud par rapport à sa propre création.
Oui, Artaud était extraordinairement lucide jusqu'à la fin. On le voit dans des petits fragments qu'on a retrouvés dans sa chambre après sa mort. Artaud était lucide et il travaillait sa propre lucidité pour en tirer une espèce d'aveuglement volontaire. D'abord parce qu'il lui fallait échapper à sa souffrance physique. Vous savez, il y a un vers d'un poète que j'aime bien, « Les plus grandes douleurs sont celles qui font mal ». Eh bien, Artaud avait véritablement de très grandes douleurs physiques. Il faisait face à ces douleurs et, chose inouïe, il cherchait à s'y approprier, à les conjurer en les faisant siennes, en leur donnant une présence démoniaque, de sorte qu'il pouvait converser avec sa douleur. Et il s'est décidé à mourir, je crois, quand la conversation est devenue intenable. Mais il n'est pas mort dans le silence, sur un dernier cri.
Qui a passé par l'électrochoc du bardo, et le bardo de l'électrochoc ne remonte plus jamais de ses ténèbres, et la vie a baissé dans un cran. J'y ai connu ces molléculations souffle après souffle, du râle des authentiques agonisants. Je suis présent, je vis, je travaille, mais je ne vivrai plus comme avant. Perte d'un ton de l'euphorie de vivre, connue un jour à se sentir vivant. De plus, l'électrochoc, comme le bardo carré des larves. Il fait de tous les états pulvérisés, pulvérisés du passant, de tous les faits de son passé, des larves inutilisables pour le présent et qui ne cessent d'assiéger le présent. Or, je le répète, le bardeau, c'est la mort. Et la mort n'est qu'un état de magie noire qui n'existait pas, il n'y a pas si longtemps. Créer ainsi, artificiellement, la mort, comme la médecine présente l'entreprend, c'est favoriser un reflux du néon qui n'a jamais profité à personne et dont certains profiteurs prédestinés de l'homme se repaissent depuis longtemps, en fait, depuis un certain point du temps. Lequel ? Celui où il a fallu choisir entre renoncer à être homme ou devenir un aliéné évident. Mais quelle garantie les aliénés évidents de ce monde ont-ils d'être soignés par d'authentiques vivants ?
C'est de nouveau la voix d'Antonin Artaud que nous venons d'entendre, lisant un extrait d'Aliénation et magie noire, document d'archives conservé par les services phonographiques de Radio France. Maintenant, Evelyne Schlumberger, Christian Judicelli, je crois qu'il faut tirer un trait provisoire sur l'esquisse que nous avons tenté de faire de l'homme tel qu'il a pu apparaître aux yeux de ses familiers dans les dernières années de sa vie. Essayons d'approcher l'œuvre, non pas pour l'analyser, mais pour en faire une description. Et là, je me tourne vers Paul Thévenin. Paul Thévenin, autre témoin privilégié qui peut seul, à mon avis, nous donner les points de repère indispensables dans cette recherche. Je sais du reste, Paul Thévenin, que vous n'aimez pas cette dénomination de témoin privilégié et que même vous la récusez.
Il n'y a pas de témoin privilégié. Je l'ai dit mille fois, les témoins sont toujours de faux témoins et quand on vérifie un témoignage par rapport au texte et aux traces écrites de l'époque, on trouve toujours une erreur dans le témoignage. Presque toujours. Si vous me dites que je suis privilégié, c'est parce que depuis très longtemps, je n'ai cessé de me préoccuper de l'œuvre d'Artaud, presque seulement de l'œuvre d'Artaud. Je n'ai presque lu que ça depuis que j'ai connu Artaud. Et le texte d'Artaud pose des questions telles qu'il me semble qu'on devrait parler de son texte plus que de sa personne. Donc, qu'il n'y a pas à être témoin de telle ou telle période de sa vie. Ça a, somme toute, peu d'importance actuellement.
Quelle est la raison, à votre avis, qui fait que, finalement, on ne parle presque jamais du texte d'Artaud, mais qu'on parle presque constamment, en revanche, de l'homme où tout le monde a sa petite histoire à raconter sur tel ou tel de ses faits, ou sur tel et tel de ses actions.
D'une part, il y en a tout de même qui ont parlé du texte d'Artaud. Blanchot, pour les premiers textes, celui
pour les lettres à Jacques Rivière,
avec Rivière. Derrida a tout de même fait un travail assez remarquable, qui se trouve dans L'écriture et la différence, sur les textes d'Artaud. À une certaine époque, le groupe de Tel Quel aussi a fait un travail d'approche. Bon, ils ont depuis fait déraper un peu ce travail d'une certaine façon, puisqu'ils ont voulu assimiler le concept de révolution culturelle avec le texte d'Artaud et celui de Bataille. Il y aurait ce couplage Artaud-Bataille qu'on a fait aussi systématiquement et assez journalistiquement, oui, n'a pas beaucoup de sens.
Ah, bon. Oui.
Mais si on ne parle pas beaucoup du texte d'Artaud, c'est parce que le texte d'Artaud pose de telles questions qu'il est plus facile de parler de l'image superficielle que peut donner Artaud. Par exemple, il y a le problème essentiel qui est l'internement. Alors disons que c'est plus simple de vous montrer le poète maudit, fou, sorti de Rodez, traînant aux terrasses du Flore des deux Magots dans les fonds du Bar Vert, que de regarder de près
l'histoire qui se joue dans les tomes, par exemple, 10 et 11. Et déjà, avec les lettres à Parisot qui se trouvent décalées dans le tome 9. Il n'y a rien d'autre qui lui soit comparable, à mon avis.
Vous pouvez justement nous dire, selon vous, quelle est cette vraie histoire?
Je ne peux pas vous le dire comme ça, parce qu'il faudrait travailler encore beaucoup pour la tirer au clair. À vrai dire, je dis qu'elle pose des questions essentielles. Si je dis qu'il n'y a rien de comparable, c'est que je pense, par exemple, on fait souvent la liste des poètes fous, Hölderlin, Artaud, Van Gogh, Nietzsche. C'est facile d'aligner des noms comme ça. Bon, mais prenez le cas d'Hölderlin. Il y a les poèmes de la folie, Hölderlin. Nous savons tous cela. La notion de folie est aussi quelque chose qui est à revoir, et probablement à partir des textes d'Artaud. Mais à partir du moment où Hölderlin a basculé, il a basculé, mais il n'est pas revenu d'un autre côté. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'histoire d'Artaud, c'est que même si on admet qu'il a basculé quand il était à Ville-Évrard, eh bien, il est revenu d'un autre côté. Et il a été son propre témoin. C'est lui-même qui a dessiné cette espèce d'aller-retour. C'est parce que je ne crois absolument pas à la thèse qui veut dire qu'on l'a guéri par les électrochocs. Ça, c'est faux. Il y a une espèce de domination, enfin, de maîtrise de sa propre faille. Je ne vois pas d'autre exemple. Enfin, si vous pouvez me dire qu'il y a un autre exemple avant ça.
Mais il y a aussi dans ces deux tomes, oui, les deux images peut-être les plus contradictoires d'Artaud, finalement, les plus opposées. C'est-à-dire l'aspect, disons, de crise religieuse, je ne sais pas comment la définir, qu'il traverse à un moment, et l'inverse exact.
Oui, vous avez raison, mais vous trouvez ça souvent, c'est l'histoire du double. Il y a un roman de Stevenson qu'Artaud aimait beaucoup, au point qu'il a voulu en faire un film, qui est Le Maître de Ballantrae.
Oui.
Et vous trouverez ces deux images d'un même homme dans le roman de Stevenson d'une façon très symbolique, mais elles y sont. Mais dans ces deux volumes, il y a cette conversion, mais celui qui s'était converti, Artaud l'a tué une première fois à Ville-Évrard, il donne la date au mois d'août 1939. Et c'est toujours en même temps lié à la vie générale. Il fait intervenir les hommes politiques. Dans les lettres de Ville-Évrard que j'ai pu lire, on voit ça, Delis, Thériault, Anthony Eden, tous interviennent. Bon, il y a un certain Louis-Louis Dreyfus, dont on sait qui il était, qui intervient aussi, ainsi que Griot de Givry. Artaud prétend qu'il a assisté à sa mort à Ville-Évrard, qu'il était là autour de lui, comme si une espèce de franc-maçonnerie générale était autour de Ville-Évrard pour tuer Antonin Artaud, dont le corps, il le raconte, est sorti un jour de Ville-Évrard. Et à la place est venu cet Antonin Alpas, oui, qui a le nom de jeune fille de sa mère, un religieux, qui va à la messe, communie, écrit à son père, est soumis à l'autorité du médecin, est soumis à l'électrochoc que le médecin lui fait subir. Et ce n'est que lorsque, à son tour, cet Antonin Alpas disparaît, qu'il y a cette espèce de nouvelle naissance d'Artaud et de son texte. C'est une histoire qui me paraît absolument fantastique. Je ne peux pas vous en donner les raisons. Je pense que ça pose de telles questions qu'elles ne sont pas prêtes d'être résolues.
Est-ce que lui-même ne les a pas un tout petit peu éclairées dans la fameuse lettre à Peter Watson?
Je pense que oui, vous avez raison, mais il n'a pas cessé de les éclairer. Mais est-ce que nous sommes en mesure de comprendre encore la manière dont il les éclaire? Je ne sais pas, il y a des choses qui sont encore très insolites.